Nouvelles rencontres, nouveaux horizons, nouveaux engagements.
Nous avons fait la rencontre de Banjougou
et de Dylan qui s'activent dans leur quartier. Celui qui les a vus naître, grandir et qui continue de les faire vibrer.
Maboula nous a fait remarquer la nécessité de se rappeler d'où l'on vient, peu importe où l'ascenseur social nous a propulsés.
Laetitia, Ahmed, Bruce et Nadir ont été marqués par l'univers carcéral, d'un côté ou de l'autre des barreaux, et nous relatent le pouvoir de destruction qu'il a sur les détenus et leurs familles.
Ils ont fait de ces blessures une force de conviction et un combat.
Dans le bas Montreuil, Lyon nous a ouvert les portes de l'aillerie et nous a guidés dans un lieu qui se mobilise en accueillant de multiples associations, dont la cuisine syrienne.
Enfin, au travers de Léa, retentira la force de l'engagement politique comme un art de vivre, parce qu'après tout, ça se résume peut-être à ça, être militant.
Une manière d'être. Vous l'aurez compris, notre volonté dans cette émission est de partager avec vous les voies de l'engagement, les raisons qui mènent à s'engager, des nouvelles façons de militer.
Faut pas croire.
Ok, mais qui, tu vas voir qui alors?
Les voix du château.
Je m'appelle Banjougou, mon nom de famille c'est Diawara. Oui, j'habite à Montreuil, je viens du quartier Bel Air Campéché. Ma famille est encore dans le quartier depuis, ça fait 50 ans. Je travaille depuis début 18 à la maison de quartier. Voilà, ça fait 4 ans, je suis encore en contrat. C'est Omar Somi, ancien directeur de la maison de quartier, qui est venu m'approcher. Il y avait beaucoup de problématiques dans le quartier au niveau de la jeunesse. Donc Omar, il est venu me chercher avec une mission, principale. C'était référent de toute la question de prévention, médiation. Ça me plaisait bien, donc du coup, je suis rentré comme ça au sein de la maison de quartier. Je suis en pleine réflexion en ce moment-là, actuellement, je suis en congé. J'aimerais bien partir du centre social. Voilà. On avait pour objectif de stabiliser la jeunesse dans le territoire, de mettre en place beaucoup d'actions, soit culturelles, à l'international, des projets. Et je trouve que, personnellement, moi, je suis arrivé à un stade où on a accompli énormément de choses. Je trouve que faut que j'aille voir ailleurs, voir l'herbe, aller plus haut ailleurs, découvrir d'autres choses. C'est merveilleux, cette maison de quartier, c'est un vrai outil pour les habitants, de les accompagner dans leur démarche personnelle, professionnelle. Rencontrer des personnes exceptionnelles, soit des professionnels ou les habitants, de différents milieux, de mettre en place des actions, des projets, que des bons souvenirs.
On parle dans cette émission des événements sur l'engagement qui en a pu enregistrer, qui se sont passés au centre social. 3 événements. Ouais. Tu peux me raconter un peu?
C'était une idée qui a été collective. Hein. A réfléchi quel impact on peut apporter à un territoire en fait. Je trouve que dans le quartier on a cette richesse, on a des personnes qui sont incroyables, des personnes aussi qui sont issues des quartiers populaires, qui ont réussi dans leur vie. On s'est dit faire appel à des personnalités qui sont connues, publiques, pour parler un peu de leur parcours. On a pensé à mettre en place des débats, parler de sujets un peu sensibles, de sujets pertinents, de sujets qui peuvent éclairer les habitants, et en particulier la jeunesse.
Et toi, si tu pourrais faire un bilan de ces événements, qu'est-ce que tu dirais?
Je dirais riche, des frissons, cohésion, il y avait énormément de personnes, débat. Des fois, c'était débat, ça partait un peu dans tous les sens, mais pour moi, c'est ça le débat, en fait. On peut pas être toujours en accord. C'est ça qui fait la richesse du débat. Surtout énormément de jeunes qui sont là, qui écoutent, qui participent, qui posent des questions. Je me dis que notre mission, elle a été réussie, en fait. Quand je vois le bonheur des habitants qui sont curieux, qu'il y a des échanges, je me dis, on a fait ce qu'on avait à faire, et donc, bingo. Je pourrais ramener ou qu'est-ce que je pourrais réfléchir dans le quartier. Déjà d'une, de mettre énormément de moyens dans les maisons de quartier, comme c'est des éléments incontournables dans un territoire. Je parle de moyens humains et moyens financiers. Certains assos, certaines institutions, je trouve que voilà, elles ne se mobilisent pas assez pour les habitants. Donc du coup, je mettrai un coup de pied aux fesses à toutes ces institutions, les dénoncer, les mettre en face à leurs difficultés. Et j'essaierai aussi de faire bouger les politiques aussi, de revoir leurs priorités, parce que moi je trouve qu'il y a énormément d'inégalités. Je dirais qu'il y a des zones voilà, qui ont plus de choses que d'autres, que je trouve ça pas normal, quoi, tout simplement. Donc du coup, j'essaierai de faire changer certaines mentalités. Dans le Montreuil, pour faire bouger les choses, pour demander les choses, faut se battre, quoi, je trouve. Faut envoyer des mails, faut descendre à la mairie, faire des actions pour se faire entendre, tandis que dans ma Montreuil, voilà, un coup de téléphone, un mail, tout est réglé, quoi. Et je trouve pas ça normal d'arriver à ce point-là, quoi, pour se faire entendre.
Et pour finir, tu peux toi-même te présenter ?
Bien sûr. C'est difficile de se vendre, quand même. Après, on va me dire, ah, j'étais trop arrogant, moi, du coup. Mais écoutez, moi, du coup, Diawara, 35 ans. Je suis heureux, je suis fier de venir de ce quartier exceptionnel, magnifique. Je suis une personne, quoi, ambitieuse, déterminée. Je pense. Après, faudra pas dire que c'est de l'arrogance. Je sais, j'ai cette confiance en moi, tu vois. Et j'ai pas eu de base, hein, cette confiance en moi, ça se travaille. Du coup, ça m'aide dans la vie pour pouvoir surmonter beaucoup de choses. Et pouvoir aussi, vouloir rêver, changer le monde.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Luana. Merci beaucoup.
Faut pas croire.
Ok, mais qui, tu vas voir qui alors ?
Les voix du château.
Je suis pas français comme un soldat de l'armée. La Marseillaise, j'ai toujours pas la chanter. J'aime pas les drapeaux, les képis, les calots, les batailles de bateaux, les rafales de Dassault. Moi, je suis enraciné à ma manière. Je vous embrasse avec la langue de Molière. J'ai des origines et j'en suis fier. C'est les mêmes que le fer de la tour Eiffel.
Et mon frère, je pense qu'il représente beaucoup de jeunes. Déjà, c'est un homme. Et je pense que la pression sociale des hommes de quartier, elle est différente d'une femme. Bien sûr, je ne mets pas de côté les problématiques purement féminines. Mais je trouve qu'aujourd'hui, un jeune, un homme, pour qu'il soit bien dans son environnement et en tout cas au sein de nos banlieues, c'est compliqué. Et mon frère, il me disait, moi, mon quotidien, c'est dur. Même si j'essaye d'être bien, même si j'essaye de ne pas faire de bêtises, on habite au même endroit, donc il se fait contrôler 15 fois. Dès qu'il va dans un centre commercial, bah, tous les vigiles le regardent, l'air de dire il va peut-être voler, il va peut-être pas voler. Quand il va dans une administration, il a l'impression qu'il n'est pas respecté comme tout le monde.
Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Bientôt le jour de gloire.
Je suis Laetitia Nenon, je suis la fondatrice de l'association Génération Avisée. Je suis également assesseur auprès du tribunal pour enfants de Bobigny. Et je suis responsable d'un service prévention de la délinquance, tranquillité publique à Stein. Il y a 15 ans, je l'ai créé parce que j'ai un petit frère qui a été incarcéré à plusieurs reprises et que je me suis posé clairement la question de... aujourd'hui, un jeune qui se retrouve en prison, pardon, quel est le processus de réinsertion ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il peut du coup agir pour éviter de se retrouver encore en prison ? Mon frère a été incarcéré 2 fois et en tant que jeune fille, sœur, j'ai eu beaucoup de responsabilités. La première fois qu'il a été incarcéré, je m'en suis voulu énormément parce que je me suis dit que moi, en tant que grande sœur, j'étais une fille. Et en plus, j'étais pas le modèle de réussite, parce que du coup, il a vu à plusieurs reprises ma mère venir me chercher en garde à vue. Mais pour que vous compreniez un peu plus, la particularité, on va dire, de ma famille, c'est que moi, j'ai un papa qui était policier. J'ai un papa qui était policier pendant 25 ans. Il a fini sa carrière au sein de la BAC du 93. On a eu une éducation, on va dire, de 0 à 14 ans assez stricte, Mais pour moi, très bonne éducation. On a toujours été dans l'échange. Mon père, il était beaucoup dans la lecture. On sortait énormément. On faisait énormément d'activités. Sauf que malheureusement, j'ai eu un papa qui a sombré dans la dépression à la fin de sa carrière. Et au final, a fait plusieurs tentatives de suicide jusqu'au jour où il a commis, on va dire, l'acte de trop. Il a voulu retourner son arme contre sa famille. Donc ça a fini en fait divers. Mon papa a tenté de nous tirer dessus. On a fui le domicile. La police est intervenue. Au final, ça s'est fini en fusillade. L'article du Parisien le lendemain disait « fusillade entre collègues à Villepinte ». Et là, ma vie a basculé. La vie de ma famille a basculé, clairement, parce que notre père, c'était notre pilier. Et malheureusement, à l'époque, ça s'était passé en août 96. À l'époque, je pense qu'il y avait des grosses carences dans les prises en charge. On n'a pas été suivi par des éducateurs, on n'a pas vu de psychologue. Quelques jours après, il fallait retourner à l'école comme si de rien n'était. Et clairement, moi, j'ai nourri une colère et une haine des adultes immense, quoi. Je refusais qu'un adulte me donne des conseils, me fasse la morale. J'étais devenue l'élément perturbateur au collège. Je me bagarrais énormément. Je suis partie plusieurs fois en garde à vue pour des violences. On se déplaçait à Aubervilliers. Puis un jour, c'était à Sevran. On était une bande de filles en colère qui se déplaçaient et qui tapaient tout le monde. On pouvait même taper, on pouvait même se battre avec des garçons à l'époque. Franchement, on avait peur de rien, en fait.
Aux enfants de nos quartiers, ne nous laissons pas dénigrer. Même la statue de la liberté a le statut d'immigré. Aucun de nous ne va remigrer du Pas-de-Calais aux Pyrénées. On est inscrit dans leur pédigré. Ne mets pas trop de pression, j'ai déjà tout un tas de problèmes. L'hymne de la nation, je vais le réécrire moi-même. Je me sens légitime à écrire un joli poème. Depuis que le plat préféré de France, c'est le couscous du Maghreb.
Donc quand il a été incarcéré une première fois, j'ai fait le nécessaire et je me suis rendu compte de la réalité du monde carcéral. Que quand t'as un frère qui est en prison, c'est toute ta famille qui est en prison. Moi, j'ai vu ma mère dépressive, j'ai vu ma mère ne pas aller bien, j'ai vu ma mère pleurer. Surtout que pour elle, il y avait une forme d'injustice du fait qu'on n'avait pas été accompagné malgré le traumatisme qu'on avait eu. Et donc, je me suis posé des questions, je me suis intéressée, je me suis investie dans le monde du milieu carcéral. J'ai vu des sociologues, j'ai repris mes études, j'ai validé un master en sécurité et vie urbaine. Là, je suis en train de travailler sur un diplôme en sciences criminelles juvéniles. J'ai été éducatrice spécialisée, je suis aujourd'hui responsable d'un service prévention de la délinquance et je suis focus sur ça en fait. Moi, mon objectif, c'est comment trouver des alternatives pour qu'un jeune il s'épanouisse, peu importe où il est. Et j'ai envie de dire, on a été un peu les cobayes ou je sais pas, une expérimentation ou j'en sais rien, je sais pas comment je peux décrire ma vie, mais aujourd'hui, je suis très reconnaissante parce que ça me permet de parler le même langage en fait. Ça me permet d'être beaucoup dans l'empathie. Parce que quand on travaille dans ce domaine-là, il faut énormément d'empathie. Et il faut se rendre compte que le parcours de vie d'un jeune, d'une jeune fille, eh ben, il peut être semé d'embûches. Et on ne peut pas insérer un jeune si on ne creuse pas et si on ne va pas voir à la loupe qu'est-ce qui se passe chez lui, qu'est-ce qui se passe dans son environnement et tout. Et donc voilà. Et donc maintenant, on est là parce qu'on a décidé on fait plein de choses chacun de notre côté. On a décidé de se mettre ensemble, de se mettre en collectif. Voilà, on partage les mêmes valeurs et on a envie que ça bouge. Et au-delà des discours, au-delà des débats, nous, notre objectif vraiment, comme le disait Ahmed, c'est créer des outils sur les droits, sur les devoirs, et de faire en sorte qu'il y ait moins de jeunes, en tout cas, qui se retrouvent incarcérés et moins de jeunes qui aient des problèmes aussi avec la police d'aujourd'hui.
Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Le reste n'est qu'un détail.
Ça m'a fait mal au cœur quand une gamine victime d'inceste m'a dit non, je vais pas voir la police parce que la police, ils sont méchants, ils sont violents, ils vont pas m'aider. Ok, mais qui tu vas voir qui alors ? C'est ça la question. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut que les adultes dans cette société se remettent en question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bavure policière, bien sûr qu'il y en a. Mais nourrir une haine envers la police fait que nos enfants, à un moment donné, auront du mal à aller vers la police quand ça sera leur dernier recours. Et moi, quand t'as une gamine qui est victime d'inceste et qui te dit « Non, je vais pas voir la police », qui se tétanise et qui dit « Non, je veux pas y aller parce qu'on va, je vais, ils vont me juger et puis je vais être mal reçu et puis ils s'en foutent et puis ceci, puis cela », t'as le temps de déconstruire tout ça, t'as une gamine qui est en train de se pourrir de l'intérieur et qui se détruit, en fait. Parce que la réalité fait que quand, à un moment donné, t'es face à une problématique où la seule personne qui peut répondre à ton besoin, c'est la police, Eh ben, ça m'embête quand un enfant il va à reculons ou quand un enfant il ne dit non, non, j'y vais pas pour telle et telle raison. Et à chaque fois, les raisons, c'est les raisons portées par les adultes. C'est pas des raisons où c'est pas du vécu. C'est parce qu'il a entendu, c'est parce qu'il sait que. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec Ahmed, parce que on a énormément de travail à faire sur cette question-là, sur cette question droit et devoir. Et je pense que on peut pas non plus laisser l'institution policière se pourrir de l'intérieur. C'est aussi ça, à mon avis. C'est qu'il faut aussi des gens comme Ahmed et d'autres qui investissent aussi la police, qui investissent aussi la justice pour apporter un regard différent.
Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Le reste n'est qu'un détail, aux armes, etc. Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Allons enfants de la patrie, c'est quoi les bails ? Bientôt le jour de gloire, aux armes, etc.
Faut pas croire.
Ok, mais qui, tu vas voir qui alors ?
Les voix du château.
Imaginez-vous, j'ai des origines. Je suis flic. J'ai grandi en banlieue. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne en France qui me déteste pas. Ouvrir des bibliothèques, ça ferme des prisons.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On pourrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher.
Il y a un écrivain français qui s'appelle Albert Camus qui a dit un jour, tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Et que pour moi, en fait, on a l'impétueuse nécessité d'à la fois trouver des modèles à ces jeunes qui sont issus des quartiers pour que justement, eux, en fait, on arrive à pérenniser la réussite par le travail, par la culture, par tous les canaux possibles, en fait. Et c'est là où, en fait, je pense qu'il y a une responsabilité de chacun, à la fois des médias, de l'État, mais aussi de nous-mêmes, en fait.
Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac ? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule.
Je m'appelle Ahmed, je suis officier de police, gardien de la paix, en groupe d'enquête, et je suis président de l'association Unité Justice Équité. Je suis moi-même issu du sud de la France. J'ai grandi en banlieue toulousaine, dans le quartier du Mirail. Arrivé en terminale, il fallait faire un choix. J'avais des bonnes notes, mais j'avais une maman qui n'avait pas forcément les revenus nécessaires pour nous assumer, ma sœur et moi. Il me fallait de l'argent immédiatement. Et il fallait que je passe par à la fois quelque chose qui me permette d'avoir de l'argent, mais aussi quelque chose qui me permette d'avoir des perspectives d'évolution de carrière. Une diversité au niveau au sein des métiers. Et donc je suis rentré dans la police en 2012 et je suis arrivé dans un environnement que je connaissais pas. J'étais le seul qui était issu de la banlieue, le seul qui avait des origines étrangères, et j'avais pas d'autre choix que de réussir. Et clairement j'avais la dalle de réussite. Et au terme de l'année, j'ai terminé major de l'école, c'est-à-dire premier de toute l'école de police, et je terminais premier au classement national.
On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez.
On est amené, en fait, dans notre métier, et moi je l'ai vu pendant maintenant 7 ans ici en région parisienne, on est amené à intervenir sur tout et n'importe quoi. Ça partait de la personne qui avait envie de se suicider, à la mère de famille qui était victime de violences conjugales, aux jeunes qui étaient déboussolés en perte de repères et qui avaient besoin justement d'avoir une main tendue et de se dire qu'en fait, on n'a pas forcément une personne qui est interpellée ou une personne qu'on va mettre en garde à vue. on a un être humain qui, à un moment donné dans sa vie, ça n'allait pas. Et il faut se positionner aussi plus en tant que policier à ce moment-là, mais en tant qu'être humain. Et de se poser les questions, qu'est-ce qui a permis ce processus-là? Comment je vais pouvoir à la fois enquêter, faire mon travail de policier, mais tout en ne dérogeant pas à mon humanité avant toute chose.
Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon.
Et puis moi, en parallèle de ça, ça fait maintenant 5-6 ans que je suis investi dans le rapprochement police-population. C'est-à-dire que j'incite des jeunes à aller le plus loin dans les études, à promouvoir un peu la citoyenneté dans les quartiers, à montrer que les quartiers, c'est pas forcément la commission d'infraction, la délinquance, tout ce qu'on nous relaie en fait dans les médias, mais qu'il y a aussi de très belles choses qui se passent dans les quartiers et qui sont jamais assez mises en avant. Je travaille aussi énormément, et avec Laetitia, on a actuellement un projet en cours, c'est sur la sensibilisation sur bon nombre de thématiques, c'est-à-dire la prostitution des mineurs, les discriminations, les violences conjugales, les violences sexuelles. Tout ça, en fait, informer les gens des quartiers populaires de leurs droits. Et quand on est amené à intervenir, quand je suis amené à enquêter et que je vois qu'en fait les gens n'ont pas forcément la notion de leurs droits, de savoir justement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, des fois je me rends compte qu'en fait on a vraiment un réel problème dans les quartiers, c'est cette carence-là. Et je pense qu'on a un énorme travail à faire, et c'est pour ça que justement j'essaie de, à travers de l'association, mais aussi de mon parcours en tant que policier, de déconstruire les préjugés qui peut y avoir, que ce soit dans les médias ou même dans l'imaginaire collectif, et surtout faire en sorte qu'il y ait un réel rapprochement entre la police, la justice et la population.
Maintenant je peux le faire sans vous, j'ai un public qui me soutient, je fais des choses, le peuple s'en souvient. La roue vous vomit, je le rends public, rien n'a changé depuis l'être à la République.
Faut pas croire.
Ok, mais qui, tu vas voir qui alors?
Les voix du château.
Luana de la radio Les Voix du Château. Je viens de sortir de la conférence de Maboula Soumaro, centre social, lors d'un débat sur l'engagement dans le quartier. Je vais essayer de la rencontrer et l'interviewer et de lui poser quelques questions. Suivez-moi.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, comment vous avez trouvé l'événement?
Ah ben l'événement, il était très intéressant, très stimulant. Et dans mon cas, c'était vraiment, ça fait garder les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il y a le domaine de la réflexion, le monde intellectuel. Et là, d'être au sein du quartier et entendre les problèmes du quotidien pour ne pas perdre de vue, en fait, la réalité quotidienne des gens, les rendez-vous à la préfecture, les questions du non-remplacement des profs. On sait exactement comment ça se passe ici, plus que d'autres départements de l'Hexagone. Je suis contente d'être venue aujourd'hui.
Vous êtes professeur universitaire à
l'Université de Tours.
Et qu'est-ce que vous enseignez?
J'enseigne au sein du département d'anglais. Donc moi, je suis spécialiste en civilisation du monde anglophone, de la période coloniale jusqu'au 21e siècle. J'enseigne de l'histoire africaine-américaine et ce qu'on appelle la diaspora noire africaine. Et puis j'enseigne un peu de traduction.
Et vous avez dit une chose qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est la question de... Dès que vous vous en sortez bien à l'école, c'est bien, jusqu'à un certain point.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ça?
Ben, je pense que c'est la question des imaginaires. Il y a les limites, il y a des sortes de plafonds de verre, ce qu'on appelle les plafonds de verre. Donc on sait très bien que même si on est dans le contrôle des populations, même si on est dans des systèmes de domination... Il va falloir quand même les populations marginalisées, il va falloir les laisser monter un peu pour leur faire croire que... Parce que si on est trop radical ou si on est trop oppressif, bah le système, il explose. Donc on va en laisser passer quelques-uns pour comprendre aux autres que c'est possible. Mais ceux qu'on a laissé passer, il y a quand même une limite, il y a quand même un plafond de verre. Moi, ce que je pense, c'est de la théorie, mais c'est aussi ce que j'ai mis en pratique dans ma vie. Il ne faut pas croire à ces imaginaires. C'est vraiment c'est la radicalité ou, je sais pas moi, l'impertinence ou l'irrévérence ou la rébellion, elle est là. Elle est aussi dans ce qu'on s'imagine dans son esprit. Je veux faire ça, je vais faire ça. Et je ne vais pas croire à ses limites. Mais il y a quelque chose de un peu difficile à faire parce que on peut se dire je ne vais pas croire à ses limites, mais les limites, elles existent vraiment. Donc il faut les dépasser, il faut, je sais pas moi, faire preuve de courage et de détermination. Et il faut transmettre, en fait. Il faut transmettre aussi ses idées. C'est comme ça que les choses, elles bougent. Et après, évidemment, la mobilisation et le collectif, ça, c'est l'histoire. Si on veut que ça change, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe pas seulement individu par individu. Quand les personnes se mettent ensemble, il y a des choses qui se mettent en place. Mais je trouve que l'imaginaire, ça compte. Et l'imaginaire de la domination, mais et l'imaginaire des personnes qui souffrent de cette domination.
Qui sont dominées.
Ouais, qui sont pas obligées d'accepter le récit qu'on leur donne.
Même l'histoire de niveau, ça c'est très courant ici. Tu n'as pas les niveaux.
Voilà, tu n'as pas le niveau. tu n'as pas le niveau, c'est une façon de dire c'est pas pour toi. Faut pas croire. Voilà, c'est pas parce qu'on me le dit que c'est vrai. C'est-à-dire même si c'est un professeur, un enseignant, même si c'est un, je sais pas moi, un policier, même si, mais il faut pas toujours les croire, surtout quand elles sont limitantes. Tu n'as pas le niveau. Quel niveau ? Parce que dans ces cas-là, si c'est juste une question de niveau, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Si c'est une question de couleur de peau, bah, il faut le dire directement. Parce que dans ces cas-là, ça ne sert à rien de se battre pour cette chose qu'on n'obtiendra jamais. Si quand on dit « tu n'as pas le niveau », on est en train de dire autre chose, c'est à cette autre chose qu'il faut s'intéresser. Sinon, on va se battre dans le vent. Parce que c'est de la mauvaise foi. Et oui. Ça veut dire que les règles du jeu, elles sont biaisées. Donc on ne peut pas gagner. Donc si on ne peut pas gagner, autant être libre. Autant faire ce qu'on veut, comme on veut. Parce qu'on ne peut pas gagner. Peut-être que mon engagement, il est lié au fait de du fait que je sois une sorte de transfuge de classe. C'est-à-dire que moi, comme j'ai grandi pauvre, et qu'après, par le biais de l'éducation, je suis arrivée dans une autre classe sociale, ben c'est comme si j'étais toujours pas à l'aise avec cette classe sociale dans laquelle je suis arrivée. Parce que quand on évolue socialement, soit on est content et on voulait accéder à cette classe sociale et donc on se dit qu'on a réussi et voilà, on est content dans ce nouveau cercle et on oublie celui d'en bas. Moi, j'arrive pas à oublier celui d'en bas et je suis toujours pas d'accord avec celui dans lequel je me trouve. Je sais pas, je trouve que je suis bien placée pour savoir que le système, il est injuste. Et que c'est pas parce que je suis arrivée à un certain niveau du système que je le trouve juste. Je le trouve toujours injuste. C'est juste que j'ai eu de la chance. Faut pas croire.
Ok, mais qui tu vas voir qui alors ?
Les voix du château.
Bonjour. Vous êtes comment vous appelez ?
Bonjour, je m'appelle Dylan Aïssi.
Et est-ce que vous pouvez parler un peu de votre biographie ?
Alors moi, je suis né dans une magnifique ville qui s'appelle Bagneux dans le 92. J'y ai grandi, j'y vis encore et si tout va bien, j'y resterai longtemps. J'ai une scolarité assez difficile. J'ai une scolarité assez difficile, notamment au collège où je sors sans brevet des collèges. Et donc, je suis orienté en lycée professionnel. En gestion d'administration, ce qui apparaît un peu comme un échec pour moi, mais en réalité comme pour tout le monde, puisque c'est un peu la perception générale qu'on peut en avoir. Ensuite, je m'engage dans différentes associations dans lesquelles j'étais engagé bien avant. Voilà, et puis rapidement, en fait, je rentre dans une asso qui s'appelle Get Up, qui travaille sur la valorisation des quartiers populaires, dans laquelle je suis encore aujourd'hui et pour laquelle je m'occupe du plaidoyer. Et en parallèle, j'ai lancé un collectif qui s'appelle Une Voix pour tous et qui travaille à réformer le lycée professionnel justement pour en faire autre chose que la machine de la reproduction sociale que c'est aujourd'hui.
Merci. Et d'où vient le mot Get Up ? Je crois que c'est un mot en anglais, je crois.
C'est ça, c'est un petit mélange, un petit jeu de mots entre ghetto et Get Up, levez-vous. Donc voilà, c'est un peu original.
Ça fait penser à quoi de dire aux jeunes, c'est-à-dire le mot ghetto, ça fait penser à quoi ?
Au quartier, au quartier populaire, c'est vraiment des environnements dans lesquels on enferme des gens sans beaucoup de perspectives d'avenir. avec beaucoup de stigmatisation, avec une concentration ultra forte de difficultés. Donc c'est tout à fait lié à la réalité.
Okay. Est-ce que, donc, comme tu viens de dire, parler un peu de difficultés, est-ce que vous avez vécu cette difficulté-là ?
À titre personnel, oui. Enfin, des tas de difficultés. Des difficultés. On m'a dit récemment une phrase que je répète, enfin, un terme que je répète beaucoup, qui est on est le fruit de son environnement. Et donc, effectivement, on est dans des environnements où des cellules familiales qui rencontrent un certain nombre de difficultés, que ça soit économique. Moi, j'ai grandi avec ma mère seule et mon frère, une mère qui garde des enfants, donc c'était pas toujours facile. Après, il y a des cas bien plus compliqués. Donc, à titre personnel, oui, on vit ces difficultés, on vit ces bêtises qu'on peut faire dehors, on vit ces difficultés scolaires, on vit tout ça. Et donc, en fait, il y a rien de plus légitime que les parcours et que les histoires. Et en fait, c'est ces parcours et ces histoires-là qui font aujourd'hui notre engagement, qui font mon engagement.
Okay. Comme au début de l'interview, vous avez parlé de votre parcours scolaire. Est-ce que vous avez beaucoup de difficultés au niveau du collège avant d'arriver au lycée ?
Ah ouais, c'était compliqué le collège. C'était très compliqué le collège. Et vraiment, si les petits écoutent, il faut vraiment s'accrocher au début. Moi, j'ai 20 ans. Je fais de l'aide aux devoirs, par exemple, et face à des problèmes de maths de quatrième, je suis en PLS, donc c'est réel, et en fait ça impacte tout le long de la vie. Donc c'était un mélange de déconcentration, d'incompréhension, et puis j'étais aussi un peu agité comme élève. J'ai jamais eu de problème réel de comportement avec les profs, mais un peu turbulent, donc voilà. Et puis en fait, on est tout le temps, enfin, on se rend pas compte de ce que ça représente et de l'impact que ça a. Donc les difficultés scolaires, oui, aujourd'hui s'accumulent et ont un vrai impact.
Donc pour terminer, quel conseil vous avez pour de nos jeunes?
Le conseil que j'ai, c'est de jamais s'arrêter de rêver. De jamais s'arrêter de rêver malgré les échecs qu'il va y avoir, parce qu'il y en aura, malgré la stigmatisation qu'il va y avoir, parce qu'il y en aura. Il y a peu de choses qui nous arrêtent dans ce bas monde, et en fait il faut vraiment tout prendre, tout manger, tout boire et faire ce qu'on peut.
Okay. Juste une dernière question, est-ce que vous avez un projet pour les jeunes de Bagnolet?
De Bagnolet?
Ouais, Bagnolet. Vous habitez à Bagnolet ou Bagnolet? Ah, excusez-moi, je crois que vous avez dit Bagnolet. Donc du coup, est-ce que vous avez un projet futur pour le jeune du Bagnolet?
Ouais, il y a pas mal de choses qui sont en train de se réfléchir là, avec des amis de ma génération. Moi, j'ai commencé mon engagement à Bagneux, et en fait, il y a énormément de choses à faire. Donc là, on est en train de se poser. Je suis dans une association qui vient de se créer de jeunes de la ville, et il y a différents collectifs qui vont aussi rapidement voir le jour.
Okay. Donc merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Enfin, merci. C'était tout.
C'était bien ?
Ouais, franchement c'est bien. On a fait 5 minutes, c'est bon.
Ah super.
Faut pas croire.
Ok, mais qui tu vas voir qui alors ?
Les voix du château.
Pas de soucis. Bon, du coup, alors moi je m'appelle Nadir Chebila, j'ai 30 ans aujourd'hui, je sors d'une longue peine de prison aussi, je sors de 10 ans de prison, je suis sorti il y a un an maintenant, je suis né à Marseille, j'ai vécu à Marseille, Marignane exactement, et du coup, voilà. Moi jeune, j'étais un jeune assez agité, comme beaucoup de jeunes dans les quartiers, j'ai toujours été très bagarreur, toujours voulu être le plus méchant, le plus dur, vouloir faire peur à tout le monde. Et c'est ce qui m'a permis de... Malheureusement, enfin, ce mauvais côté m'a permis de rentrer dans la boxe un jour. Et j'ai vu que j'avais un peu de talent pour ça. Parce que je faisais que me battre tout le temps. J'ai dit, bon, tant qu'à faire, on va essayer d'en faire quelque chose.
C'est vrai bagarre. Aujourd'hui, là, c'est UFC. C'est pas les petits corps à corps de merde.
Et donc, à 15-16 ans, j'ai commencé la boxe. Je suis passé professionnel assez vite. À 17 ans, j'ai été boxeur pro. Et la boxe, ça prenait un peu tout mon temps, donc l'école mis de côté complètement. À l'école, ça allait plus, le collège c'était très 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 compliqué, et du coup tout dans la boxe. J'ai été champion de France à 17 ans, pratiquement à 18 ans. J'ai fait les championnats d'Europe à 18 ans, j'ai perdu en finale. Et à côté de ça, du coup, plus d'école, j'avais tout misé sur ça, vu que ça commençait à marcher. Et comme beaucoup de sportifs, on se rend compte que le sport, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'à un moment, on est des milliers de sportifs et il n'y en a vraiment qu'une poignée qui réussissent. Du coup, on se retrouve, on a 19-20 ans, à plus avoir d'argent, parce que le sport, c'est compliqué, le sport, c'est pas ce qu'on croit. Surtout la boxe, c'est un milieu où il n'y a pas énormément d'argent. Et donc, il faut manger. Et vu qu'on n'a pas fait d'études, pas été à l'école, il faut avoir de l'argent. Et je me suis tourné vers des mauvaises choses. Ce qui est le plus accessible pour nous dans les quartiers, c'est la drogue, c'est les braquages. Et j'ai commencé. Et en commençant, je me suis vite rendu compte que c'était pas la vie que je croyais. Parce que on rêve un peu tous d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent, en faisant des conneries. On se dit qu'on se fait de l'argent facilement, que ça va vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans ça, quand on rentre dans la drogue, dans tout ça, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, que les gens normaux ils peuvent faire. Les gens normaux ils peuvent aller au resto, sortir tout le temps, partout où ils veulent. Mais nous, on ne peut pas, parce que nous, on a des problèmes à droite, à gauche, parce qu'on s'est fait voler, par un mec de la cité d'à côté. Il ne faut pas les croiser, parce que si on les croise, ça tourne mal. On ne peut pas sortir avec nos petites femmes à côté, on ne peut pas sortir avec une fille du quartier d'à côté. Et donc voilà, plein de désillusions dans ça. Et finalement, comme tout le monde, comme tous ceux qui font des bêtises, j'ai fini en prison. J'ai pris une peine de 16 ans. J'ai pris 16 ans de prison alors que j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'ai pris 16 ans de prison. Donc là, ça, le cursus commence, c'est parti en prison. La famille qui s'éloigne, les amis qui s'éloignent, on devient seul. J'ai passé 5 ans dans le sud. Et vu que dans le sud, j'avais plein d'histoires déjà dehors. À force de frapper tout le monde, à force d'avoir des disputes un peu à droite à gauche, ils m'ont dégagé et j'ai fini à Paris. Du coup, c'est comme ça que j'ai fini ici. J'ai fait 5 ans de prison aussi à Paris. Et je suis sorti à Paris au bout de ces 10 longues années d'incarcération. Je suis sorti l'année dernière, du coup. Et l'extérieur, aussi dur qu'on peut s'imaginer après avoir passé 10 ans en prison, c'est une vie en prison. Quelque chose que moi, jeune sportif, je ne m'imaginais pas. Et du coup, chercher du travail, chercher un emploi, se remettre dans la vie active, c'est hyper, hyper dur après tout ça. Et après toutes ces années, on se rend compte que qu'est-ce qu'on a gagné. Forcément, on a eu un peu d'argent, mais de l'argent qu'on ne peut pas utiliser. Parce qu'il faut vous dire que quand vous faites des bêtises, quand vous faites tout ça, cet argent, à part le jeter dans des habits, dans des voitures, vous ne pouvez rien en faire. Vous ne pouvez pas acheter d'appart, vous ne pouvez pas ouvrir de société, vous ne pouvez rien faire qui va durer dans le temps, rien faire qui va vous servir. Cet argent, il ne sert à rien. Et même les sorties, les boîtes de nuit, tout ça, quand vous faites des bêtises, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a toujours la police qui nous regarde, il y a toujours des gens à droite, à gauche avec qui on a des problèmes, donc on ne peut pas sortir où on veut. Donc voilà, un bilan un peu compliqué de toutes ces années. Aujourd'hui, j'essaie de m'en sortir. J'ai rencontré un peu des actions culturelles que j'ai pu faire en prison, du théâtre, du cinéma. Moi, le bagarreur, le braqueur, le vendeur de drogue. Et donc aujourd'hui, je suis dans ça, dans le cinéma. J'essaie de faire passer mon message un peu à qui veut l'entendre. Et voilà, je ne vais pas faire plus long. On parlera plus en détail après si vous avez des questions.
Moi, je m'appelle Bruce Dombolo. Je suis né à Marseille. Je t'ai entendu là-bas. Hein. Pas de galère. Je suis né à Marseille. J'ai grandi à Marseille. J'ai grandi à Vitrolles exactement. J'ai grandi en banlieue. Et j'ai eu la particularité d'avoir deux rêves quand j'étais petit. Mon premier rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. Et mon deuxième rêve, c'était de devenir un bandit, un braqueur, un dealer. Donc j'ai eu une scolarité, on va dire basique, où j'étais un premier de la classe, comme on les appelle à la base, jusqu'à ce que j'arrive en sixième. Et en sixième, j'ai commencé à me détacher un peu des études, j'ai commencé à me déscolariser, et j'ai commencé à traîner un peu dans le quartier, tout en gardant cette passion pour le football. Mais quand j'étais dans ma cité, je regardais les grands de ma cité, je regardais leur attitude, et j'étais très 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 interpellé par les grandes cités qui sortaient de prison. Parce que quand j'entendais leurs discours et qu'ils racontaient la façon dont ils vivaient la prison, je me disais, mais c'est ça être un homme en fait. C'est aller en prison, ressortir, être respecté, être craint par tout le monde. Donc j'avais un peu, excusez-moi du terme, le cul entre deux chaises, d'un côté footballeur, d'un côté braqueur. Donc je me cherchais. Je suis arrivé en troisième, et en troisième, il était question de choisir une orientation. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup, j'avais pour projet d'aller à l'armée. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais très bon au foot et j'ai commencé à être sollicité par des clubs. À l'âge de 15 ans, j'ai été sollicité pour intégrer le centre de formation de Nîmes Olympique, chose que j'ai faite. Ça m'a valu aussi d'être sélectionné en équipe de France des U16. J'ai été aussi repéré par le centre de formation de l'AJ Auxerre. Du coup, à 16 ans, j'ai rejoint le centre de formation de l'AJ Auxerre. À 18 ans, j'ai signé mon premier contrat pro en Italie, où j'ai évolué en Serie A. Serie A, c'est l'équivalent de, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de la Ligue 1 en France. Donc j'ai eu une ascension très rapide dans le milieu du football professionnel. Ce qui s'est passé en 2003, c'est la période à laquelle j'étais en Italie, c'est qu'il y a eu une crise économique qui a frappé le football italien. Et du coup, nous, footballeurs, nous n'étions pas payés comme on aurait dû l'être. On était payés tous les 3-4 mois, on nous donnait des acomptes. Et ça, c'est un truc que je vivais super mal. De me dire, j'étais footballeur professionnel, mais j'avais pas la vie bling-bling qui allait avec. Et du coup, j'ai eu ce rapport avec l'argent qui m'a mis dans des situations où, quand je rentrais par exemple à la cité, en tant que footballeur professionnel, en tant que star du quartier, le fait de pas avoir une grosse voiture, le fait de pas pouvoir avoir des gros sous sur moi, c'était quelque chose que je vivais très mal. Donc ensuite, il y a eu des soucis dans la famille qui ont fait que mes parents se sont séparés. Et là, du jour au lendemain, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de basculer dans l'illicite. Je suis devenu braqueur du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai intégré une équipe de gens qui faisaient des braquages, des vols à main armée, pensant que c'était le bon choix, l'argent rapide, l'argent facile. Je me suis laissé embarquer dans pas mal de délits qui m'ont amené à, au total, passer 11 ans de prison. Donc j'ai été incarcéré. Là, je sors d'un total d'années de 11 ans de détention. En prison, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré en prison, j'étais pas un délinquant, j'étais pas un méchant garçon. Je suis devenu un délinquant et un méchant garçon quand je suis sorti de prison. En gros, la prison, ça a développé des choses négatives en moi qui ont fait que, en fait, mon incarcération, elle s'est passée en deux fois. La première fois, ça a duré de mes 20 à 23 ans. Et la deuxième fois, je suis rentré à 25 ans, j'en suis sorti à 34 ans. Donc le 3 janvier 2019. Et lorsque je suis sorti de détention, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la sortie de prison, elle a été beaucoup plus difficile que la prison elle-même. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut de la prison, c'est très difficile de supporter des années de prison. Mais lorsqu'on sort d'une longue peine, c'est encore plus difficile de se réinsérer, retrouver sa place dans la société, retrouver sa place au sein de sa famille. Et la prison, ça m'a permis aussi, justement, pour revenir sur ce mot de la famille, comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas de valeur dans la vie, comme le rapport avec la famille. Parce que t'as beau avoir ton équipe, les mecs de ton quartier qui sont là, quand t'es dehors, tout va bien. Mais une fois que tu rentres en prison, si t'as pas ta famille qui est derrière toi, tu te retrouves dans des situations très compliquées. Donc moi, la prison, ça m'a permis de réaliser justement à quel point les conseils de la mère, ça pouvait être important. Parce que quand nos mères nous parlent et qu'elles nous donnent des conseils, la première chose qu'on se dit, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle ne connaît pas la rue, elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais au final, la plupart de nos parents, ils ont connu la vraie misère, la vraie rue au pays là-bas. Et malheureusement, on l'accorde pas assez de crédit quand ils nous parlent. Donc moi, je suis sorti de prison, j'ai fait ce qu'il fallait pour me réinsérer. C'était très, très, très compliqué au début. Trouver du travail, trouver un logement, me mettre à jour au niveau administratif. Mais à force de lutter et de patience, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une émission télé qui s'appelle Le Grand Oral. J'ai eu la chance aussi d'avoir pu parler à la ministre de l'époque. Et le fait de m'exposer comme ça sur les chaînes, ça m'a permis d'avoir des contacts. Et on m'a sollicité pour faire des interventions auprès des jeunes. Et c'est comme ça que j'ai été fondateur de l'association Les Miradors. Et par la suite, j'ai aussi une carrière dans le cinéma qui m'a ouvert les portes. J'ai tourné dans pas mal de films, pas mal de séries. Et aujourd'hui, même si mon métier principal, c'est médiateur au sein de cette association Les Miradors, à côté, je suis aussi devenu acteur comédien. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir échanger. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions et ainsi on pourra vous apporter des réponses très pertinentes. Je vais. Merci d'avoir été attentif. Vous pouvez applaudir.
Faut pas croire.
Ok, mais qui tu vas voir qui alors?
Bah on commence par là ici direct.
Ouais. Là donc on était dans un peu la bureau bibliothèque de l'aérie, donc on est au rez-de-chaussée. On vient d'entrer dans le lieu. Après, là ça sent bon, ça sent le pain qui est en train d'être cuit. Exactement. Là, on rentre dans l'espace cantine. Donc, c'est l'espace où, avec la cantine syrienne, on fait nos merveilleux repas. Derrière le bar, on retrouve Mayada, membre de la cantine syrienne. Et coucou. Et on retrouve aussi toutes les ustensiles pour cuisiner et tout ça. Là, c'est une grande salle avec le drapeau de la Révolution syrienne, quand même, qui trône, et le programme du Festival des Peuples Veulent. Alors ici, j'étais en service civique pendant 8 mois à la cantine syrienne de Montreuil, donc qui est une asso, un collectif où on fait des cantines populaires à prix libre à l'Aéri, qui est un centre social, un espace de vie en fait, où il y a beaucoup de collectifs qui se rejoignent. Et donc on peut retrouver des cantines à prix libre, mais aussi des cours de boxe, des cours de danse, toute une multitude d'activités, des ateliers créatifs. Et il y a tout un tissu social qui s'y rejoint. Par exemple, il y a aussi une boulangerie, il y a aussi une grande salle où il y a des spectacles. Donc voilà, c'est un lieu comme ça, près de Croix de Chaveau à Montreuil. Et la cantine syrienne y est depuis le début.
Ah, c'est bien, mon planning là.
Exactement, on a un grand planning que tout le monde peut suivre. C'est quelque chose qui est décidé en amont. Il y a plusieurs activités et les créneaux sont dispatchés. Voilà. La grande salle et une des salles rouges aussi. Et voilà, donc ça c'est tout l'espace, c'est le lieu. Et là-haut, c'est les bureaux. L'aérie, donc c'est un lieu qui est ancien, qui a été créé à la base pour être un centre d'art-thérapie pour les malades du sida il y a 40 ans. Et qui, il y a 3 ans maintenant, a été réapproprié par une série de collectifs pour en faire le lieu qu'il est aujourd'hui, donc un centre social. En tout cas, c'est pas une occupation, c'est vraiment un lieu qui appartient à ses usagers. Et donc la cantine syrienne, ça existe, ça a été créé par des exilés syriennes et des militants français qui se sont rencontrés et qui se sont dit qu'il y avait besoin d'avoir un espace commun, pour qu'il y ait un espace pour la diaspora syrienne, pour se retrouver, pour être ensemble, pour célébrer aussi la culture syrienne à travers les repas, mais à travers aussi la musique, enfin plein de manières différentes, où en fait les exilés syriennes pouvaient continuer l'élaboration politique de la révolution syrienne, mais en exil. Mais c'est aussi dans la pratique elle-même de la cantine. Par exemple, nous, on a des cantines du midi à l'Aéri qui sont à prix libre et qui sont pour le coup entièrement de la nourriture syrienne. Mais par exemple, le vendredi soir, un vendredi soir sur deux, on organise des événements. Et là, pour le coup, on peut inviter des collectifs non syriens, mais justement, en fait, ça peut être une plateforme pour des collectifs colombiens, par exemple, qui peuvent faire un repas colombien, des collectifs afghans qui vont pouvoir faire un repas afghan. Donc c'est aussi un espace qu'on laisse libre à d'autres cultures et d'autres luttes ou d'autres initiatives de partager leurs expériences, mais aussi leurs repas, que ce soit un espace pour les autres diasporas aussi. Les Peuples Veulent, donc, qui est le festival qu'on organise cette semaine, c'est qu'on invite des personnes de partout dans le monde, justement, des comités de résistance au Soudan, des assemblées territoriales au Chili, d'un réseau de semences au Liban, d'un réseau local de féministes autochtones en Colombie. Enfin voilà, c'est vraiment avec des tables rondes, des concerts, dans lesquels là, tous les invités vont pouvoir présenter en fait, diffuser les idées qu'on va qu'on aura élaboré toute la semaine, mais à un public francophone de Montreuil, de Paris, de la France. Quoi. C'est pour ça qu'on entend parler plein de langues là, à la RI cette semaine, c'est parce que voilà, on a tout aussi une manière de traduire cette cinquantaine, si ce n'est plus, de personnes, donc en quatre langues, arabe, français, espagnol, anglais, tout le temps. Et donc c'est une machine magnifique dans laquelle il y a beaucoup de spontanéité aussi, dans laquelle il y a beaucoup de découvertes, beaucoup d'émotions, où on échange sur des sujets qui peuvent être pas faciles aussi, mais d'autant plus importantes à aborder ensemble en vue de voir comment est-ce qu'on peut construire des solidarités de plein de manières différentes à travers le monde et à travers nos initiatives qui paraissent toutes locales et toutes petites, mais en fait qui sont immenses quand elles se rencontrent et qu'elles se font écho. Donc moi, je m'appelle Léon, ça fait... moi, je connais le Cantine Sirène depuis des années, enfin en tout cas depuis presque le moment de sa création, mais j'ai rejoint le collectif vraiment de manière plus suivie il y a 8 mois. Et voilà, moi je suis très active dans l'organisation du Festival des Peuples Veulent, mais j'adore aussi la cantine, le tissu que ça crée aussi... à toute petite échelle, juste dans le quartier, quoi. À quel point, en fait, il y a des gens du quartier qui viennent, qui reviennent, à quel point on fait se rencontrer aussi des gens qui seraient peut-être pas rencontrés d'une autre manière, des personnes qui viennent d'un foyer pas loin, d'autres personnes qui travaillent pas loin et qui partagent un repas. Enfin, c'est très très chouette de couper des carottes et de se dire que voilà, on fait un repas pour plein de gens et que c'est à prix libre et que chacun peut donner ce qu'il peut ou ce qu'il veut.
Ok, mais tu vas voir qui alors ?
Assoit ton casse.
Les voix du château.
Bonjour, je m'appelle Léa et je coordonne l'association Didatica depuis 2001, 21 ans déjà. C'est une association fondée à l'école d'architecture Paris-Lavillette, dont le mot d'ordre est « pas d'architecture démocratique sans pédagogie ».
Moi, mon engagement, c'est ma vie, c'est-à-dire j'ai fait de mon travail... un projet de vie, un projet de société. Et donc, c'est pas salarié, enfin, c'est de temps en temps salarié, de temps en temps les minima sociaux, de temps en temps... Donc, c'est c'est de la rémunération par intermittence, et c'est en ça que c'est un engagement total, c'est-à-dire que je sois payé ou pas, je fais le même boulot. Et que ça, c'est très difficile pour le commun des mortels à comprendre, puisqu'on est dans des sociétés... capitaliste, enfin, ou le salariat, tu vois, si tu, par exemple, à l'époque où j'étais RMiste, pour donner un exemple, j'étais jeune, j'avais 26 ans, je venais d'avoir 26 ans, et comme j'étais en train de monter le projet associatif de Didatica, j'ai fait cette demande de RMI, à l'époque ça s'appelait RMI, donc le RSA actuel, et ça me permettait de survivre, je complétais avec d'autres argents, un petit peu. Quand je disais, même aux membres de ma famille, qui étaient de gauche, enseignants, alors pas bourgeois, plutôt milieu enseignant, tu vois, des gens qui a priori comprennent, ils m'avaient insurgé d'attaque en disant, mais c'est pas fait pour toi le RMI, parce que je profitais de l'argent public, alors qu'en fait, comme mon projet associatif était d'intérêt public, enfin je faisais le boulot que ne faisaient pas les institutions publiques en gros, et que pour moi, c'était hyper légitime d'être payé par l'argent public. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, Didatica bénéficie principalement de l'argent public. Je suis 10 fois plus à l'aise avec l'argent public qu'avec l'argent privé, par exemple, des fondations. Parce qu'elles comprennent moins bien, sauf peut-être la Fondation de France, mais en tous les cas, voilà. Et donc, l'engagement, c'est ça pour moi. C'est que quand tu fais de ta vie un projet associatif, enfin, quand tu fais de ton projet associatif un projet de vie, parce que Didatica, c'est ma vie, mon association. Je n'ai fait que ça de ma vie. Mais c'est déjà énorme. C'est comme un enfant, en fait. C'est que je le porte... tu vois, il y en a, ils ont... À la même époque, quand j'ai créé Didatica avec d'autres, il y en avait qui faisaient des enfants, qui ont aujourd'hui 20 ans. Ben moi, Didatica a 20 ans et j'en suis super fière. Enfin, comme pourrait l'être un parent. Ce dont je te parle, c'est pas le milieu artistique. Dans le milieu artistique, je peux me faire comprendre assez facilement parce qu'on bidouille sa vie, justement. Tu vois, dans certains, ça dépend des milieux, si tu veux. Mais là, je te parle du milieu classique, les enseignants ou les métiers classiques du privé. Enfin, tu vois, l'extrême majorité de la société ne fonctionne pas comme ça. L'engagement, il est quand tu comptes pas, en fait. Comment dire En fait, tu vois, par exemple, quand je te disais les gens qui ont fait des enfants, et d'autres, bon, il y en a qui font des enfants qui s'occupent des autres enfants. Mais si tu veux, quand même, il y a cette idée que on s'occupe de sa petite vie privée, et ça passe avant tout. Bon, moi, c'est pas le cas. Enfin, tu vois, pour le coup, c'est même extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire s'oublier dans l'engagement, dans le militantisme. Bon, les profs avec qui j'ai travaillé récemment, on peut pas dire, elles avaient des horaires très précises, ça s'arrêtait, elles sont venues à aucun des événements en dehors du temps scolaire, enfin voilà, donc pour moi elles sont pas engagées. Mais tu vois, sur l'engagement, par exemple, souvent ce que je dis, c'est que mon travail à Didatica est politique. J'essaye de transformer la société. Pour moi, ça, c'est la définition de la politique, c'est que Didatica est un projet de société. On fait une proposition de projet de société. Et quand je dis ça, par exemple, à des 68ards, des mecs qui ont vécu tous les mouvements politiques des années 70, donc plutôt la forme parti, c'est-à-dire que toute forme d'engagement politique, c'était par l'engagement dans un groupe politique. Et pour ne pas citer mon père, tu vois, mon père, il comprend pas que je lui dis que ce que je fais, c'est politique. Et ça, c'est un autre versant, c'est que l'engagement peut être dans une association, parce que la plupart, en fait, tu vois, l'engagement politique, alors là, faut rajouter politique, c'est le mot politique. C'est, moi, je préfère ce mot-là, d'ailleurs, hein, qu'engagement, mais bon. Parce qu'il peut y avoir aussi le côté, tu sais, très judéo-chrétien, je m'engage, comment on dit, je me... tu sais, quand tu te consacres, là, tu... Voilà, le dévouement, voilà. Voilà, le dévouement. C'est cette culture politique des années 60-70 qui considère, et ça d'ailleurs Frédéric Lordon, il se coltine ça aussi, c'est cette idée des grands mouvements politiques, c'est que pour changer la société, il faut un grand mouvement politique. Alors que moi j'essaye de lui faire comprendre que c'est il y a une multitude de propositions locales, concrètes, précises, qui transforment les gens. Et en fait, ça participe au changement de la société, c'est de transformer, se transformer et transformer ceux qui nous entourent, quoi. Justement, je comprends la question d'émancipation, parce que pour le coup, je suis pas encore vraiment, je me considère pas totalement émancipée, hein. On a tous un travail à faire sur sa propre émancipation, hein.
À quel endroit tu pourrais constater que t'es pas encore complètement émancipée? À quel endroit? Que tu pourrais rendre visible à la radio, je veux dire, que tu pourrais expliquer.
Sur les relations en tant que femme, c'est sur les relations hétéro, quoi. Clairement, quoi. Ça, je suis pas émancipée. Allez, j'y vais.
Faut pas croire.
Ok, mais qui, tu vas voir qui alors?
Assois-toi, mon prince.
Les voix du château.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Ben, c'est fini pour cette émission, mais le combat est en cours. Comme dit Maboula, le système est toujours injuste et chacun trouve sa façon de se battre, de résister. On tient à vous remercier, chers auditeurs, pour les écoutes qui sont de plus en plus nombreuses. Si vous souhaitez faire des retours sur nos émissions, nous poser de questions ou nous proposer des récits, envoyez-nous des messages sur l'Instagram Le Voix du Château ou à l'adresse mail les avec un S, voix avec un X du Château. @gmail.com. Vous allez trouver aussi cette émission sur Ocha, Spotify, Deezer, Google Podcast et YouTube. Sur ces plateformes, vous allez avoir le choix d'écouter et l'émission complète et les récits de chaque invité séparément. Nous remercions chaleureusement à la Maison de Quartier du Bel Air, à Céline, Bandjougou et Théo, à Franck et à la radio Ems et à tous ceux qui ont pu contribuer à la construction de cette belle émission. La lutte continue. Et à bientôt.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves j'en ai.
n'aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que.
Faut pas croire.
Ok, mais qui, tu vas voir qui alors?
Assois-toi,
les voix du château.